Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Avec notre invitée ce soir à 18h20, une femme éclairée qui veut promouvoir un autre islam. Elle s'appelle Kaïna Bahloul, elle est la première femme imam de France et a créé sa mosquée. Elle publie aujourd'hui « Mon islam, ma liberté » aux éditions Albin Michel. Elle sera avec nous dans quelques instants. 18h30, les polémiques du jour. On reviendra sur ce conseil de défense important prévu demain, mais aussi sur le retour du chouchou des Français, Édouard Philippe, un ex en embuscade. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Philippe Manière. Coup de griffe ce soir contre les hauts fonctionnaires qui grippent, nous dira-t-il, l'appareil d'État. Et à 19h20, le Club des Idées avec ce soir un grand entretien exceptionnel avec celui qui a dirigé la deuxième ville de France pendant 25 ans, l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui publie ses mémoires sur 60 ans de vie politique, ses victoires, ses regrets, son enfance et sa ville, bien sûr, Marseille. Il nous racontera tout dans un entretien vérité. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Nous ne laisserons pas saturer les hôpitaux, nous ne laisserons pas n'importe quel médecin opérer, être en situation de devoir trier des malades. Et si besoin était, nous prendrions d'autres mesures pour toujours protéger les Français.
Alors que la pression monte dans les services d'urgence encore et encore, Emmanuel Macron peut-il opter pour le statu quo? L'opposition, en tout cas, le presse d'écouter davantage les médecins.
Conseil de défense prévu demain et dès ce soir, le chef de l'État aura sous les yeux des chiffres qui devraient lui permettre de choisir entre les différentes options envisagées.
Va-t-on vers une fermeture totale des écoles, par exemple? Rien n'est décidé, mais les parents le redoutent, fort de l'expérience du premier confinement.
L'ouverture également du procès de l'homme qui a foncé sans raison sur une pizzeria en 2017, en Seine-et-Marne, une jeune fille de 13 ans avait été tuée.
L'ONU met en cause l'armée française, accusée d'avoir tué 19 civils lors d'un mariage au Mali en janvier. Cette dernière se défend de toute bavure.
Et puis on verra que les habitudes de lecture des Français, elles aussi ont changé à la faveur de la crise.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette hausse, plus 1,21% à 6088 points.
La météo, Anissa Dadi, demain... Encore de la chaleur, encore du beau temps. Ce sera même la journée la plus chaude de la semaine.
Oui, il a fait très chaud aujourd'hui. D'ailleurs, certains records de température ont été battus. Et bien demain, ça continue. Le thermomètre grimpe encore avec du soleil partout pour tout le monde. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La pression s'accentue sur les épaules d'Emmanuel Macron alors que la tension se tend chaque jour un peu plus dans les hôpitaux. L'exécutif doit tenir demain un nouveau conseil de défense pour faire le point. On verra dans un instant quelles sont les pistes envisagées.
Oui, ce qui est sûr, c'est que le choix de ne pas instaurer une mesure plus coercitive est de plus en plus contesté, notamment au sein de l'opposition.
Et c'est ce que vous avez pu constater effectivement, Claudia Bertram, cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Oui, et les critiques se multiplient contre le chef de l'État. Les oppositions de tous bords demandent à aller plus loin, notamment en ce qui concerne les écoles. Le député insoumis, Éric Coquerel, reproche à l'exécutif de n'avoir rien fait.
La situation sanitaire, comme prévu depuis le mois de janvier, il y a qu'Emmanuel Macron qui manifestement ne l'avait pas vu, elle est dramatique. Soit il dédouble toutes les classes, là, dans les jours à venir, soit il ferme les établissements dans les endroits où la contagion est la plus forte. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement.
L'insoumis qui déplore qu'aucune des propositions formulées par son groupe n'ait été entendue et retenue par l'exécutif. Même reproche de la part du député socialiste David Habib, qui fustige à la tribune une prise de décision solitaire d'Emmanuel Macron.
Il vous faut entendre les médecins, les enseignants, les élus, le Parlement, un homme seul ne peut pas décider pour 66 millions d'habitants.
Soutien plutôt inattendu en revanche de la part de Damien Abad, le chef de file des députés LR.
Moi je vous le dis très clairement et je l'assume, mais je suis contre l'idée du confinement préventif. Et je pense que là-dessus le président de la République il a eu raison, pour une raison très simple. Le confinement préventif c'est socialement inacceptable. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenir le confinement territorialisé et maintenir les écoles ouvertes.
Damien Abad qui plaide toutefois pour avancer les vacances de Pâques et qui prévient, la limite à ne pas franchir, c'est le tri des patients.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale. Alors, le tri des malades est une ligne rouge absolue, a dit ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Or ce tri, il est inévitable, disent aujourd'hui certains médecins.
Et forcément, Emmanuel Macron entend tous ces arguments. D'ici ce soir, Jean-Rémy Baudot, le président, aura sous les yeux des chiffres sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour prendre d'éventuelles décisions.
Oui, ce sont les chiffres quotidiens de Santé publique France, mais ce soir, l'exécutif va particulièrement observer les tendances lissées sur 5, 7 et 10 jours. Objectif, tenter de décrypter si les mesures prises il y a bientôt deux semaines commencent à porter leurs fruits ou pas. Ces chiffres sous les yeux, Emmanuel Macron sera probablement amené à prendre de nouvelles décisions, plusieurs options sur la table, le statu quo, l'aménagement des mesures existantes, la fermeture des écoles, un confinement généralisé dans les zones les plus tendues. Cette dernière option n'est pas pour l'heure la plus privilégiée. Rien n'est encore acté, précise l'Élysée. Mais mais on est au cœur d'un rituel devenu de plus en plus lourd pour les Français. Cette phase d'attente entre la publication des chiffres, le Conseil de défense, les éventuelles annonces. Certains au sein de l'exécutif imaginent une prise de parole d'Emmanuel Macron dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines heures. Option qui n'est pas confirmée au sommet de l'État et qui dépendra de toute façon des mesures à annoncer. La pression politique et médicale est forte. Un conseiller me disait, on dit souvent qu'on est dans une semaine décisive. Cette fois, c'est pour de vrai.
Les précisions de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Alors, parmi les facteurs pris en compte par l'exécutif, la situation évidemment dans les écoles. Depuis hier, en effet, dès qu'un cas de Covid est détecté, c'est donc toute la classe qui ferme.
Oui, ça tourne souvent au casse-tête hein, pour les proviseurs, on les entendait hier, ici même, mais aussi pour les parents, des parents qui, aux abords des écoles, s'inquiètent d'une éventuelle fermeture généralisée. C'est ce qu'a constaté Lionel Gougelot à Lille.
Depuis une semaine, Sonia garde son fils à la maison, collège fermé pour cause de Covid. Sa fille est encore scolarisée en primaire, mais la jeune maman craint plus que tout une fermeture généralisée des établissements scolaires.
Moi perso, je n'ai pas la prétention de pouvoir dispenser des cours et donner une instruction au même titre que les profs ou les maîtresses et les maîtres d'école. C'est juste impossible. Donc non, là vraiment, ça serait vraiment extrêmement problématique.
Même inquiétude pour Isabelle et ses trois enfants.
Parce qu'ils n'ont pas de vie depuis un an.
Un écolier, un collégien et un lycéen qu'elle voit mal cloîtré dans son appartement.
Si en plus on leur enlève l'accès à la vie sociale qu'ils ont dans l'établissement scolaire, c'est hyper compliqué moralement pour eux.
Mohamed, lui, se prépare un peu résigné à refaire l'école à la maison pour ses deux filles. Il suffira, dit-il, de s'organiser.
Moi j'ai cet avantage-là que mes horaires peuvent être un peu flexibles, donc je suis m'arranger au travail avec mes collègues. C'est compliqué, mais après s'il faut fermer, il faut fermer.
Mais pour Jean-Yves Guéant, le président de la FCPE du Nord, une fermeture globale risque d'aggraver des situations de décrochage.
Vous avez des enseignants qui sont toujours sans matériel pour pouvoir travailler à distance. C'est les élèves qui n'ont pas de connexion. Là, moi, je ne sais pas comment ça va aller parce qu'il y aura encore des iniquités de prise en charge à distance d'un établissement à l'autre.
Avec des conséquences encore plus dommageables dans les établissements scolaires de quartiers défavorisés. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a annoncé que les contrôles de police et de gendarmerie seraient intensifiés dès jeudi, après-demain donc, en amont d'un week-end de Pâques à haut risque. Contrôle au péage et dans les gares pour éviter bien sûr que les Français ne respectent pas la règle des 10 km.
Au niveau européen maintenant, c'est un peu le retour du chacun pour soi.
Oui, l'Italie par exemple a décidé d'imposer un test à tous les voyageurs en provenance de l'Union européenne et une quarantaine de 5 jours, à l'issue de laquelle un nouveau test devrait être effectué. Tandis que l'Allemagne, elle, renforce encore ses contrôles aux frontières terrestres, notamment donc avec la France.
À propos de la vaccination, cette fois une bonne nouvelle.
Le laboratoire allemand BioNTech indique qu'il compte fabriquer cette année jusqu'à 2,5 milliards de doses de son vaccin développé avec l'américain Pfizer. C'est 25% de plus qu'annoncé initialement.
18h06, on part à Melun maintenant, aux Assises de Seine-et-Marne, avec le début du procès d'un homme de 36 ans qui avait, sans raison apparente, projeter sa voiture sur la terrasse bondée, souvenez-vous, d'une pizzeria près de la Ferté-sous-Jouarre. En août 2017, il avait tué une collégienne et blessé une douzaine de personnes.
Oui, acte délibéré dont on ne connaît toujours pas le mobile. Première confrontation, donc, très difficile évidemment, aujourd'hui, entre l'accusé et ses victimes, Justin Morin.
Oui, les quelques mots déclarés par l'accusé d'une voix chevrotante passent mal auprès des nombreuses victimes présentes dans la salle. Je reconnais les faits, je m'en excuse, mais je ne reconnais pas la préméditation. J'étais en plein épisode délirant. C'est arrivé inopinément. En clair, c'était un accident et ça, Sarah ne peut pas l'entendre. Elle était serveuse dans la pizzeria le soir du drame. Elle a vu la voiture accélérer pour foncer vers elle, entendu les pneus crisser, les cris des victimes.
Non, enfin, c'est pas lui la victime en fait. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'il oublie qu'il y a quand même pas mal de victimes. Ça remonte des souvenirs pas bons, quoi. J'ai du mal. Voilà, le procès, il est sur 3 semaines et ça va être très très compliqué.
Face à l'accusé, les parents de l'adolescente décédée ce soir du 14 août 2017 l'ont aussi écouté. Ils confient leur agacement face à des excuses qu'ils considèrent de circonstances. Ils ont ensuite entendu le père et la sœur de l'accusé raconter son enfance difficile, l'absence d'une mère décédée quand il avait 2 ans, ses échecs amoureux, professionnels, son sentiment d'abandon. Puis ces bouffées délirantes liées à un sevrage brutal de cannabis 2 semaines avant les faits. Les experts psychiatres ont bien reconnu une altération de son discernement le soir des faits. C'est ce que son avocat tentera de mettre en avant tout au long de ce procès.
Justin Morin qui suit pour Europe 1 ce procès. 1 an de prison ferme requis contre un ancien dirigeant d'IKEA France, poursuivi pour avoir fait espionner ses salariés pendant des années. 2 millions d'euros d'amende ont également été requis contre l'entreprise.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite du journal avec cette question. L'armée française a-t-elle commis une bavure au Mali en janvier dernier?
3 bombes lâchées dans le centre du pays. Officiellement, elles visaient un groupe armé terroriste, sauf que ce sont des civils qui ont été touchés. Et aujourd'hui, un rapport de l'ONU met donc directement en cause l'armée française, Théo Manval.
Oui, armée française qui réfute depuis le début l'idée que ces trois bombes larguées le 3 janvier sur le village de Bounti soient en fait tombées sur un mariage. C'est pourtant la conclusion très claire dès la première page de ce rapport de la mission des Nations Unies au Mali, dont les enquêteurs se sont rendus sur place. Ils ont rencontré 115 témoins individuellement, 200 autres en groupe. Et leur récit confirme, dit le rapport, la tenue d'une célébration de mariage avec une centaine de civils. 19 d'entre eux sont morts, tous des hommes, ainsi que trois membres présumés de la Katiba Serma, un groupe djihadiste actif dans la zone. Et c'est l'une des zones d'ombre qui persiste. Il y avait donc bien des hommes armés sur place aussi. À ce sujet, le rapport est même parfois contradictoire. L'armée française réfute donc ce soir toute bavure par la voix d'Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées.
Sur quoi reposent les conclusions du rapport ? Sur des témoignages, certes nombreux, mais dont on ne sait pas de qui ils émanent. Les gens ne sont pas nommément cités, dont on n'a pas la retranscription et dont on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été interrogés. Est-ce que ces gens étaient sous influence ? On ne le sait pas. Nous, nous maintenons, nous avons neutralisé des groupes armés terroristes. Nous avions un drone sur place qui a tourné des images pendant une heure et demie avant la frappe.
Mais ces images qui permettraient de lever les doutes qui persistent, le ministère des Armées refuse aujourd'hui de les publier. Seule Florence Parly, la ministre, les a vues. Le ministère ne veut pas dévoiler, dit-il, d'informations stratégiques à l'ennemi.
Merci beaucoup Théo Manval. En Birmanie, la répression se poursuit malgré les condamnations de la communauté internationale, les sanctions américaines. L'ONU a convoqué une réunion du Conseil de sécurité en urgence demain. C'était une figure, Sarah Obama, celle que l'ancien président américain considérait comme sa grand-mère. S'est éteinte à 99 ans au Kenya. Elle fut la troisième femme du grand-père de Barack Obama qui l'aimait beaucoup et qui parlait souvent d'elle.
En 2020 à présent, les Français, on le sait, à la faveur des différents confinements, ont beaucoup regardé la télévision et les séries en particulier. En revanche, ils ont un peu délaissé la lecture.
Et oui, curieusement, alors qu'il n'y a rien de tel qu'un bon livre pour s'évader, Nicolas Caro, ce n'est pas vous qui direz le contraire.
Oui, alors certes, 86% des Français ont lu au moins un livre en 2020, hors lecture professionnelle, mais en 2019, ils étaient 92%, soit 6 points de plus. À cause de la crise sanitaire, en partie, la diminution des déplacements pour cause de télétravail a joué. Les transports sont traditionnellement un lieu privilégié pour la lecture. La concurrence des plateformes de vidéos a été très forte aussi. Bonne nouvelle quand même, pour 72% des sondés, la lecture est associée à une source de plaisir, c'est 8% de plus que l'étude précédente. Les Français se déclarent aussi très attachés à leur librairie. 80% des acheteurs s'y sont procurés des livres. Le nombre de lecteurs sur format numérique reste stable. Le roman est toujours le genre le plus lu. Mais en cette période de crise, on observe une forte hausse de l'intérêt porté aux livres de reportage et d'actualité.
Nicolas Caro, le monsieur livre d'Europe 1 dont vous retrouverez les bons conseils le week-end dans La Voix et Livre, tous les dimanches à 14h. Un mot encore pour vous dire que Karim Benzema sera jugé au mois d'octobre dans la affaire de la sextape de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. L'attaquant de Real Madrid risque jusqu'à 5 ans de prison pour tentative de chantage. Et puis, le quart de finale féminin de Ligue des Champions entre Lyon et le PSG est reporté. L'UEFA accepte de décaler le match qui était prévu demain à la demande des dirigeants lyonnais après l'apparition de 4 cas de Covid dans l'effectif. À l'aller, les Lyonnaises s'étaient imposées 1-0.
Et voilà qui est complet. Merci Isabelle. Isabelle Millet qu'on retrouve évidemment pour le rappel des titres à 18h30. La météo, Anissa Dadi, le beau temps se poursuit et ça, on est plutôt content.
Oui, dès le début de la journée, demain, Julien, un temps très ensoleillé et doux. Dans le sud, au bord de la Méditerranée, comme aujourd'hui, nous aurons des entrées maritimes qui risquent de temps en temps de cacher le soleil et pourront un petit peu gâcher cette impression de beau temps, notamment du côté du Languedoc. Le vent d'autant reste sensible avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Mais bonne nouvelle, dans le sud, ces entrées maritimes vont se dissiper au fil des heures et dans l'après-midi, le soleil va réellement s'imposer. Alors côté température, on a toujours un peu de fraîcheur le matin avec 1 degré à Charleville-Mézières, 3 à Clermont-Ferrand, 5 degrés pour Strasbourg et Montpellier, 6 à Lyon, 9 à Paris, 11 à Nice et Cherbourg et 12 degrés déjà le matin pour Biarritz. Au meilleur de la journée, c'est stationnaire dans le sud et dans le nord-ouest avec seulement 17 degrés à Cherbourg et Perpignan, 19 à Nice et Lorient, 20 à Marseille, 22 à Nîmes et Vannes et dans l'après-midi partout ailleurs. Ça grimpe encore, 24 degrés pour Belfort, 25 à Paris, Lyon et Strasbourg, 27 pour Bordeaux et 28 à Mont-de-Marsan.
28 degrés.
Et à 18h30, je vous donnerai les records de température battus aujourd'hui qui vont encore grimper demain, mais on a déjà battu des records mensuels de température.
Journée la plus chaude de la semaine demain.
Demain, ouais.
C'est l'info à retenir. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h18, elle est la première femme imam de France. Elle prône un islam libéral, réformiste et publie Mon Islam, ma liberté, aux éditions Albin Michel. Bonsoir Kaïna Baloul.
Bonsoir.
On peut donc être femme et imam, vous n'êtes pas la seule, hein, mais beaucoup de nos auditeurs ne le savaient peut-être pas. Ça n'est pas réservé aux hommes.
Non, pas du tout. Ça n'est pas réservé aux hommes. Alors aujourd'hui, en France, il en existe 3, mais ailleurs dans le monde, il en existe d'autres aussi, notamment dans le monde occidental. En Chine, il en existe depuis le 18e siècle et dans la tradition aussi.
Et pourquoi il y en a si peu ?
Eh bien, parce que la lecture des textes a été faite toujours, depuis des siècles, par des hommes, à travers le prisme patriarcal, une interprétation qui est passée par la lecture patriarcale, qui a mis de côté, justement, tout élément de texte qui concerne cette histoire-là, ou la possibilité pour une femme de l'être.
Alors, si je vous pose la question, Kaïna Baloul, c'est précisément parce que c'est l'objet de votre livre. Cette quête de la spiritualité, vous l'avez découverte d'abord en étudiant le soufisme, la littérature, la philosophie, et puis il y a eu évidemment le choc des attaques terroristes. Ça a été le déclencheur d'une certaine manière de la création de cette salle de prière, totalement mixte, hein, je le précise, on va en parler. C'est une mosquée libérale, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Oui, tout à fait, c'est une mosquée libérale.
La mixité est interdite dans presque toutes les mosquées, mais pratiquée à la Mecque.
Oui,
et c'est vrai qu'on a tous déjà vu ces images où les femmes et les hommes sont mélangés, pris, j'allais dire quasiment main dans la main, en tout cas côte à côte,
tout à fait.
Mais pas dans nos mosquées.
C'est très paradoxal, mais en fait, oui, à la Mecque, les hommes et les femmes sont complètement mélangés. Et pour le coup, là, on n'invoque jamais aucun argument sur le fait que les hommes seraient perturbés, pas du tout. Et même aussi quand on parle à l'époque du prophète, de la mosquée du prophète lui-même, en fait, il y avait les hommes et les femmes priaient dans la même salle également.
Oui. En vous présentant tout à l'heure, j'ai présenté cet ouvrage comme le plaidoyer d'un islam éclairé. Parce que c'est vrai que votre démarche est aussi une réponse à la crise que traverse l'islam, à son radicalisme, à son fondamentalisme. Oui. Il y a une autre voie, dites-vous, qui est d'ailleurs l'un des fondements de l'islam, un tolérant, réformisme, libéral. Pourquoi, selon vous, cet islam-là n'imprime pas en France et que ce sont plutôt les autres qui semblent aujourd'hui avoir gagné la bataille des esprits, la bataille des idées?
Alors, je pense que ça va encore au-delà de la France, mais il faut avouer une chose, c'est que la France aussi a cette particularité de produire des extrémismes, ou plutôt des conservatismes religieux très très forts, et pas seulement en ce qui concerne l'islam. Mais pour aller donc plus loin, enfin, et au-delà de la France, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, la pensée réformiste et éclairée existe dans le monde musulman depuis le 19e siècle, sauf qu'elle n'a pas été soutenue. Et malheureusement, c'est l'autre versant, c'est plutôt le versant fondamentaliste qui a été soutenu par les puissances financières du Moyen-Orient.
Oui. Vous citez par exemple un exemple, parce que vous avez vécu en Algérie, que vous avez d'ailleurs connu sans le voile, on va y revenir dans quelques instants. Vous expliquez la pression, par exemple, des militants du FIS, le Front islamique du salut, dans les années 90, et leur slogan « Sois un homme et voile ta femme ». Et on sent à la lecture de votre livre qu'il y a eu là comme une forme de bascule.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je l'ai vu. J'ai vraiment vu s'opérer ce basculement de la société. Donc, j'ai connu, comme je le dis dans le livre, une Algérie où les femmes ne portaient pas du tout le voile. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu c'est l'arrivée de cet endoctrinement religieux des frères musulmans. Ça a commencé d'abord par l'idéologie des frères musulmans. Et puis, petit à petit, on a vu le voile devenir une obligation religieuse. Et même certaines femmes ont dû le payer de leur vie.
Vous faites d'ailleurs le parallèle à ce qui s'est passé par la suite en France. Vous avez des propos très durs sur le féminisme islamique, ce mouvement apparu notamment autour de Tariq Ramadan. Vous dites qu'il a contribué au voilement généralisé des femmes en Europe. Vous l'accusez même de malhonnêteté intellectuelle. Oui, c'est cela. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui au débat assez électrique, on peut le dire, sur le port du voile ?
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de l'islam et surtout du voile, on rentre tout de suite dans des polémiques, dans une hystérisation du débat que je trouve très dommageable. Parce que même si, effectivement, je critique les lectures qui sont orientées et qui véhiculent une lecture unilatérale de l'interprétation des textes concernant le voile, pour dire que le voile est une obligation et qui, à ce titre, va omettre ou complètement mettre aux oubliettes les autres lectures qui disent que le voile n'est pas une obligation oui. religieuse. C'est ce que je critique. Mais ceci dit, je respecte aussi le droit individuel de ces femmes-là de choisir comment elles peuvent se vêtir.
Mais est-ce que vous le vivez comme un repli identitaire ou vous voyez ça comme une forme de choix individuel ?
Justement, en fait, c'est ce que je critique dans cet islam, dans ce féminisme dit islamique, parce que pour moi, le féminisme n'a pas à être islamique ou pas. Et puis d'ailleurs, je parle même d'un humanisme, plutôt d'un humanisme inclusif,
oui.
parce que je considère que la justice, elle doit être promue pour toute pour l'humanité entière, au-delà des appartenances religieuses ou ethniques ou quoi que ce soit. Donc je ne comprends pas pourquoi ces femmes-là en fait, ont besoin de ce marqueur identitaire oui. justement pour demander plus de justice pour les femmes.
Ça vous inquiète de ce point de vue-là, je sors un peu du cadre du livre, mais ça vous inquiète de ce point de vue-là, le retour du politique, le retour du politiquement religieux dans l'espace public et notamment la multiplication, parce que c'est quand même un fait, des femmes voilées dans l'espace public.
Bien sûr, ça m'inquiète, cette politisation de la religion musulmane, moi ça me renvoie 25 ans en arrière, à la décennie noire en Algérie, justement à ce cauchemar de l'islam politique en Algérie qui a détruit un pays et tout un peuple pendant plusieurs années. Et justement, là, on retrouve dans ce féminisme aussi dit islamique la politisation de la gestion du corps de oui. la femme. En oui. fait, c'est comme si le corps de la femme devait absolument relever d'un débat politique, public, mené par des hommes et des leaders religieux. Alors que ça devrait être une affaire oui, privée et individuelle.
Il y a plein de choses, on n'aura pas le temps évidemment de tout balayer dans le livre, mais c'est absolument passionnant. Et par exemple, vous évoquez l'année clé de 79, votre année de naissance,
oui.
Mais aussi celle de la naissance de l'islam politique avec la prise de pouvoir de l'ayatollah Khomeini en Iran.
Oui.
Et vous dites par exemple, page 31, « L'islamisme assimilé bientôt à l'islam trouve là ses funestes ces oui. funestes racines.
Oui.
Une question peut-être plus d'actualité. Comment jugez-vous aujourd'hui la volonté de créer cet fameux islam de France qu'appelle de ses voeux le gouvernement et notamment Emmanuel Macron à travers notamment la loi contre le séparatisme, à travers l'idée de cette charte de l'islam de France et le Conseil national des imams chargé de certifier la formation des imams. Ça va dans le bon sens, ça ?
Eh bien, pour tout vous dire, moi, je trouve sincèrement la position du gouvernement et de l'État français même très ambiguë.
Pourquoi ?
Parce que, ne serait-ce que sur la question de la représentativité de l'islam de France aujourd'hui, nous savons très bien qu'au sein du CFCM, nous avons des fédérations qui sont des fédérations très proches, par exemple, des courants de l'islam politique. Et ça fait des années que l'État français discute avec elle et les considère comme étant représentatifs, alors que justement des gens comme nous, qui sommes des libéraux, qui prônons l'égalité femmes-hommes, qui vivons un islam qui est en harmonie totale avec les valeurs de la République, eh bien nous ne sommes même pas conviés à ces
vous
discussions.
Vous n'avez pas été consulté, vous ?
Pas du tout, jamais.
Jamais
consulté, non. Pas
jamais.
Du tout. Jamais.
Un dernier mot peut-être sur... votre cas personnel, est-ce que pour ces prises de position, est-ce que pour ce livre, est-ce que pour votre initiative de créer cette mosquée libérale, vous êtes aujourd'hui menacé dans votre intégrité ?
Écoutez, les réseaux sociaux, oui, en général, ce sont aussi des lieux qui libèrent la parole violente, agressive. Oui, j'ai reçu quelques menaces et des insultes sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas au-delà, heureusement. Maintenant, je crois que voilà, le sujet est tellement brûlant que c'est normal. Il faut faire avec et puis il faut aller. Il ne faut pas avoir peur, parce que si on a peur, on ne fait jamais rien.
Bien, merci pour votre témoignage. Merci pour ce message aussi de paix et d'harmonie d'une certaine manière pour un islam éclairé. Ça s'appelle Mon Islam, Ma Liberté, Kaïna Maloul, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci infiniment.
Merci à vous.
Europe 1.
Julien Bugier.
18h28, restez avec nous dans quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix. Tiens, tiens, voilà qu'Edouard Philippe revient sur le devant de la scène publique. Avec quelle ambition? On en parlera avec nos débatteurs, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres avec Isabelle Millet à 18h30.
BioNTech, partenaire de Pfizer, espère produire 25% de doses supplémentaires de son vaccin. Il estime avoir la capacité de fabriquer 2,5 milliards de doses d'ici la fin de l'année. En France, 2 millions d'injections sont prévues cette semaine contre 1,8 million la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur annonce que les contrôles de police et de gendarmerie seront intensifiés dès jeudi, après-demain donc, en amont d'un week-end de Pâques à très haut risque. Contrôle au péage et dans les gares pour éviter que les Français ne respectent pas la règle des 10 km. Un cas de Covid et c'est toute la classe qui ferme. Vous savez que c'est la règle depuis hier dans les 19 départements confinés. Faut-il aller plus loin? L'hypothèse d'une fermeture des établissements scolaires sera discutée demain en Conseil de défense sanitaire. On ne sait toujours pas si le chef de l'État s'exprimera ou non à l'issue de ce Conseil. 2 millions d'euros d'amende requis contre IKEA en France, poursuivi pour avoir espionné plusieurs centaines de salariés pendant des années. Un an de prison ferme également requis contre son ancien dirigeant. Et puis Lewandowski, l'attaquant vedette du Bayern Munich, sera absent contre le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Au match aller et au match retour, il s'est blessé.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo avec Anissa qui nous a retrouvés, qui nous annonce, on est content de vous avoir Anissa. Parce que là, il n'y a que des bonnes nouvelles, un record de chaleur pour demain.
Oui. Pour demain, et on en a eu aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il a fait 23,8 degrés à Troyes aujourd'hui, 24,8 à Joigny dans l'Yonne et 27,4 degrés du côté de Biscarrosse. Ce sont des records mensuels de température. À Troyes, on n'avait pas eu près de 24 degrés depuis 2004. Alors demain, autre bonne nouvelle.
Pour un fin mars. Hein.
Pour un fin mars, oui, bien sûr. C'est des températures.
En juillet, il fait un peu plus chaud que ça quand
même. Des températures mensuelles. Alors demain, les températures grimpent encore avec 28 degrés prévus pour Mont-de-Marsan, 27 à Angoulême et Bordeaux, 26 à Clermont-Ferrand, 25 à Paris, Lyon et Strasbourg, 24 à Belfort, 23 à Lille. Au plus frais, dans le nord et dans le sud, on aura 21 degrés pour Bastia et Brest, 20 à Marseille, 19 à Nice et 17 à Perpignan et Cherbourg. Dans le ciel, rien à signaler, du soleil pour tout le monde demain.
Et ben voilà, quand c'est simple, hein,
c'est efficace, hein,
efficace,
ça fait plaisir.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien
Bugier. 18h33, place au débat des grandes voix du mardi avec ce soir Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Olivier Perroux, journaliste au Point. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir Julien.
Alors avant de parler ensemble du retour d'Edouard Philippe sur le devant de la scène, d'abord les dernières infos sur ce fameux Conseil de défense qui se tiendra demain. Dans un contexte évidemment tendu, avec une situation sanitaire qui se dégrade, des fermetures de classes qui se multiplient. Mais pour l'instant, autour du président de la République, on espère encore éviter un reconfinement strict, avec quand même une ligne rouge absolue, comme l'a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, sur une radio concurrente.
Il y a une ligne rouge absolue, c'est le tri des malades. C'est la ligne rouge absolue. Et nous ne voulons certainement pas arriver à un point où les personnels hospitaliers seraient obligés de faire le tri dans les malades. Et croyez-moi, contrairement à ce que j'entends trop souvent dire, il n'y a pas les tenants d'une ligne économique et les tenants d'une ligne sanitaire au gouvernement.
Bien, on va prendre les choses dans l'ordre. Guylaine Ottenheimer, d'abord vos pronostics pour demain. Est-ce qu'il vaut mieux renoncer au totem des écoles ou opter pour un confinement strict, quitte à les laisser ouvertes ces écoles ?
Vous me demandez de prendre une décision. J'ai pas tous les éléments, dirait un homme politique.
Bon, comment vous sentez les choses?
Moi, je pense qu'il va essayer de financer. Donc, on va avoir les écoles qui vont fermer dans tel et tel cas, dans telle et telle région. Histoire de faire croire qu'on ne confine pas complètement, qu'on ne retourne pas à la case départ et qu'il a eu raison et qu'il avait trouvé la bonne solution en faisant différemment des autres. Là, ça commence quand même un petit peu à poser problème, cette espèce d'assurance. Je ne me suis pas trompée, c'est les scientifiques qui avaient fait des mauvaises prédictions. Je suis immunologiste parce que je lis tout. Je suis épidémiologiste parce que je lis tout. Sauf qu'il s'est trompé sur beaucoup de choses. Il s'est trompé sur les masques. Il s'est trompé sur les vaccins. Parce qu'au tout début des vaccins, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que disait son entourage? On n'aura pas de vaccin en mars, c'est pas possible.
Oui.
Et puis même, disait, mais attendez, les premiers vaccinés, c'est des cobayes. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est pour ça qu'on commence par les vieux, parce que toute façon,
c'est prudence avant d'accélérer, c'est vrai.
Oui, et il a pesé au sein de l'Union pour qu'on ne se précipite pas. Il n'a pas fait de vaccinodrome parce que les gens avaient peur. Donc il s'est trompé sur beaucoup de choses aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il joue trop au plus malin, au plus fin, voilà.
Bon, alors, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, Charles Villeneuve. Hein. Soit on annonce un confinement strict, comme il y a un an. Bon, après nous avoir dit qu'il fallait vivre dehors il y a encore quelques jours, là aussi, il faudra gérer le double discours. Soit on ferme les écoles, soit c'est le statu quo. Et on pousse les murs, en se disant qu'il y a encore de la marge.
Ben écoutez, à vous écouter et à entendre Guylaine, moi, je trouve qu'entre le président qui fait de la médecine et les professeurs et les médecins qui font de la politique, on a beaucoup de mal à finalement avoir clair. Et on est plutôt dans la confusion. Je trouve que Macron a raison de ne pas se laisser balader par le lobby des mandarins parisiens,
oui,
notamment de la PHP. Mais en même temps, nous faire croire qu'il a la science infuse, c'est pas possible.
Oui.
Et ça mérite une explication.
Et
en
y a
tout
une
cas.
Réalité quand même,
oui. Oui.
De débordement,
oui.
De certains...
Non, mais, moi,
certains,
je pense, comme Guylaine, c'est qu'il va essayer de financer. Et il va nous faire, si vous voulez, un entre-deux. Entre le confinement auquel pousse pas mal, ne serait-ce que la déclaration que vous venez de passer de Bruno Le Maire, qui lui, puisque tout le monde dit qu'on est quasiment maintenant à la limite de ce que font les chirurgiens militaires sur un champ de bataille, c'est-à-dire choisir
oui,
ceux qui
les
peuvent
patients.
Être sauvés et les autres les laisser partir.
Et là, on se demande où sont les 14 000 lits promis.
Oui.
Oui, alors ça,
là,
n'en parlons pas,
oui.
Parce qu'entre les masques,
c'était
le vaccin
12 000,
et le
mais
reste...
Peu importe, hein.
Il y a eu 14 000, Véran, apparaît 14 000.
14 000. 14 000 lits mobilisables à tout instant. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop où ils sont. Olivier Pérou. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Charles Villeneuve, il y a un petit désaccord, une petite musique qui est en train de monter là depuis 48 heures des médecins sur l'état des hôpitaux d'Île-de-France. Et on assiste à des discours contradictoires. Alors, je prends un exemple, le chef des services de réanimation à la clinique Ambroise Paré, qui dit que les projections sont fausses et qu'on n'est pas du tout encore au niveau de trier les patients. Il reste des places, dit-il. Alors, il n'est pas le seul à le dire.
Oui, enfin, jusqu'à quand ? Je veux dire, il y a des réalités. Jusqu'à quand ? Il y a des réalités différentes selon les hôpitaux. Je ne sais pas s'il y a un lobby des mandarins parisiens à la PHP. En tout cas, ce que je sais, c'est que faire de la politique, c'est aussi savoir anticiper les choses. Et ce que j'observe depuis un an, c'est qu'il y a eu trois Emmanuel Macron différents. Le premier en 2020, où il prend une décision assez lourde sur la base de première contamination et d'un virus qui arrive, qu'on ne connaît pas. Et puis il y a un deuxième Emmanuel Macron, le 28 octobre, qui établit une stratégie chiffrée, 5000 cas. Voilà, c'est une barre, il faut descendre à cette barre. Sauf que cette barre, on ne va jamais l'atteindre. C'est une stratégie qui est très précise et qui a inspiré un peu des Japonais, d'ailleurs, qui ne sont pas dans le zéro Covid, mais qui sont, voilà, on descend au maximum cette contamination et ce virus. Et finalement, on n'y arrive pas début décembre. Il y avait une petite idée de refermer les écoles juste avant Noël. Ça ne s'est pas fait. Et puis janvier, rebelote, 20 000 cas, ça réexplose. Donc en fait, aujourd'hui, Emmanuel Macron refuse de prendre des décisions assez lourdes pour répondre au propre objectif qu'il s'est fixé le 28 oui. octobre. Donc finalement,
enfin, pardon Olivier Perrault, mais il y a quand même une question d'acceptabilité, on va en parler dans deux
mais
secondes.
Bien sûr,
le dernier sondage Odoxa la montre que les Français, ils en ont marre.
Mais l'acceptabilité, comment elle s'obtient l'acceptabilité, c'est juste en fixant des objectifs clairs, des échelles pour que les Français comprennent quand on confine et quand on ne confine pas.
Il y a aussi la lassitude de la durée. Un an de confinement, quand même, ça commence à peser. 18h39, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite des grandes voix du mardi avec toujours Charles Villeneuve, Olivier Pérou, journaliste au Point, Guylaine Ottenheimer, actrice en chef à Challenge. Alors j'évoquais l'acceptabilité, c'est un truc dont on parle beaucoup depuis maintenant un an, mais c'est vrai qu'on est à un point de bascule aujourd'hui. Sondage Odoxa pour la presse régionale, 71% des Français sont opposés à un renforcement des restrictions et ça monte évidemment notamment chez les moins de 25 et les jeunes. Ça aussi, Guylaine, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte. On ne va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de gens maintenant qui s'accommodent du couvre-feu, qui sortent un peu après 18h, qui ne portent pas forcément le masque. On ne peut pas les blâmer non plus, ça fait un an qu'on est dans des conditions sanitaires compliquées avec cette stratégie de stop and go. Donc ça va être décisif aussi dans les décisions de demain.
Oui, parce qu'il y a une bonne partie de la population, disons ceux moins de 55 ans, qui sont persuadés qu'on a le Covid et que ce n'est pas très grave, que bon, c'est une mauvaise grippe, c'est un sale moment à passer. Mais voilà, et qu'après tout, ceux qui ont des pathologies ou qui sont vieux, ils n'ont qu'à faire attention, rester chez eux, et voilà, et tout ira bien. C'est plus compliqué que ça, parce que plus le virus circule, plus il y a des mutants, plus l'âge des pépins et des Covid durs... atteint des personnes de plus en plus jeunes. Donc, on ne connaît pas toute cette épidémie. Mais il y a une chose, c'est sûr, pour qu'il y ait de l'acceptabilité, Il faut qu'il y ait de la discussion. Il faut que les gens comprennent les enjeux. Qu'il y ait des gens qui disent « Non, ça, ça ne va pas. Moi, je ne propose pas. » Oui, mais si vous faites ça, ça va avoir ça comme conséquence. Faudrait qu'il y ait un débat clair, que les gens puissent s'exprimer. Là, on nous assène des trucs qui sont décidés dans un lieu de secret.
Et c'est ce qui manque. Mais c'est ce qui manque, Julien.
Dans une rédaction, dans une entreprise, vous n'acceptez les choses que parce que ça a été discuté par les élus du personnel,
alors,
etc.
Donc quoi ? Un débat parlementaire ?
Non, mais de toute façon, moi, je trouve qu'il y a... On va en parler tout à l'heure, notamment d'Edouard Philippe, mais il faut reconnaître qu'Edouard Philippe avait ce sens pédagogique clair de nous expliquer les choses qui nous faisaient plus accepter de toute façon, ce qu'on voulait nous imposer.
Mais l'état de sidération n'était pas tout à fait le même quand même au début de la pandémie.
Et c'était le début.
Oui, peu importe. Mais la pédagogie, de toute façon, quels que soient les moments, si vous la faites ou vous ne la faites pas. Et là, on ne la fait pas. Il est bien évident qu'il faut un forum, qu'il faut discuter, qu'il faut expliquer. Il y a des dizaines de questions qui se posent.
Oui.
Et nous n'avons pas la science infuse, de toute façon. C'est vrai.
Alors, Olivier Perroux, Olivier Véran insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas eu de pari, parce que c'est ça aussi qu'on reproche beaucoup à Emmanuel Macron. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Guylaine, avec cette fameuse décision de non-reconfinement. Il dit, le ministre de la Santé, c'était bel et bien un choix de l'exécutif de ne pas confiner les Français. On ne laissera pas, à l'inverse, saturer les hôpitaux ou trier les malades. Là aussi, on est dans une forme de... Non pas de double discours, parce que la situation, évidemment, évolue, mais il va falloir que l'exécutif prenne ses responsabilités à un moment ou à un autre.
Oui, sauf que j'entends quand Olivier Véran dit on n'a pas fait de pari, sauf que nous, journalistes qui voyons justement les conseillers et stratèges de l'exécutif, à l'époque, ils nous parlaient de pari.
Oui.
Voilà, on fait un pari, donc on ne l'a pas sorti du chapeau du magicien, ce terme. Non. Ce que dit, là, ça fait 2 semaines qu'on dit que c'est une semaine décisive. Au bout d'un moment, il va falloir prendre des décisions.
Ça fait même un an qu'on dit que la semaine est décisive.
Exactement. Voilà. Là, j'ai l'impression que depuis vendredi, on ne cesse de tous gloser sur la probable prise de parole du président de la République. Elle n'intervient toujours pas. Pourtant, comme vous le disiez assez justement, quand Édouard Philippe prenait la parole, même si c'était pour nous imposer quelque chose, au moins on savait, c'était pédagogique. C'est ce qu'on attend aussi d'Emmanuel Macron, une prise de parole d'un chef qui nous explique à quelle sauce on va être mangé.
Oui.
Et là, pour l'instant, elle est absente ou elle est supputative.
Donc il faut qu'il parle. Quel que soit
ça va régler, je pense que
décision.
Sa parole va régler
parce
pas mal de...
On est aussi dans une forme de schizophrénie, on peut le dire. Il y a une pression de la part du personnel médical en Ile-de-France principalement, parce qu'il y a le reste de la France aussi qui appelle à reconfiner de façon stricte ou de façon territorialisée, mais fermeture des écoles, on en a parlé, qui est en ce moment très forte. Mais le président doit prendre une décision aussi nationale qui touche tous les Français. Donc il est compliqué. Ce moment.
Oui, mais
est
vous voyez, par exemple, quand il reconfine Le Havre, il n'appelle même, Castex n'appelle même pas Édouard Philippe. Ce n'est pas seulement une question de politesse ou voilà.
Méthode.
C'est que simplement, il l'appelle 24 heures avant en disant voilà, je crois que, est-ce que tu ne penses pas que. L'autre lui dit mais oui, mais moi, je n'ai pas les mêmes chiffres, c'est juste dans ce quartier, on pourrait peut-être confiner que le centre-ville et peut-être ça, peut-être que ça serait mieux. C'est là qu'il y a eu beaucoup de cas, c'est peut-être ça qu'il faudrait fermer. Voilà, simplement, en discutant après.
Oui.
Les gens sont convaincus qu'ils ont joué un rôle, donc ils vont être beaucoup plus allants avec la communauté dans laquelle ils vivent. Là, simplement, Édouard Philippe, qu'on a entendu dire « Bon, moi, je ne suis pas content de l'avoir appris par la presse. » Vous croyez que c'est mobilisateur pour les Havrais ?
Oui.
Vous voyez, alors, je sais qu'ils sont débordés. Enfin, ils sont, je ne sais pas combien de ministres. Il y a un moment, il faut se répartir les tâches.
Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'ils nous fixent, sinon un calendrier des objectifs précis, mais en gros, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui nous attend ? Et comment on pourrait atteindre tel ou tel
C'est ce qu'il a fait le 28 octobre. C'est ses propres objectifs qu'il a renié en janvier quand le conseil scientifique, fin janvier, quand on a atteint les 20 000 cas, lui dit il faudrait peut-être reconfiner durement là parce qu'on n'atteint pas votre propre objectif.
Un reconfinement, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. On peut revoir ses objectifs. Je reviens sur ce qui vient d'être dit. Si l'objectif des 5 000 n'est pas atteint, le président de la République a fait le choix aussi pour libérer les Français et permettre aux Français de passer les fêtes de fin d'année un peu en famille.
On parle de janvier.
De ne pas reconfiner.
Non, mais là, on parle de janvier. Les 20 000 cas, c'est fin janvier. L'avis du Conseil scientifique, c'est fin janvier. À ce moment-là, peut-être qu'il y avait des décisions à prendre. Et encore une fois, anticiper.
Il y a ce qui manque, je veux dire, c'est un moment, il faut mettre en perspective. C'est-à-dire que.
C'est ça.
Il y a certaines personnes qui croient que ce n'est pas grave. Bon. Alors, est-ce que c'est très grave ? Est-ce que notre société est en danger ? Et pour longtemps ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et on ne va pas se plaindre de porter un masque, et on ne va pas se plaindre de ne pas aller au restaurant, parce que pendant la guerre, c'était bien pire. Ou alors, ce n'est pas très grave, et ça ne va juste pas durer. Mais on a envie de savoir la tonalité. Là, les gens sont perdus. Il y a des gens qui sont complètement parano. Il y a des gens qui disent, mais tout ça, ce n'est pas grave. Il y a un moment où on aura envie d'avoir une parole claire sur dans quelle situation on est exactement.
Peut-être demain, à l'issue du Conseil de défense. On verra ça. 18h47, on va parler d'Edouard Philippe. Tiens, vous parliez du Havre, Guylaine. On va parler du retour de l'ex-premier ministre sur le devant de la scène. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h50, la suite du débat des grandes voix avec Charles Villeneuve, Olivier Perroux, Dupont, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Alors, on parle maintenant du retour d'Edouard Philippe, l'ancien premier ministre, qui, 9 mois après son départ de Matignon, revient donc sur le devant de la scène avec la sortie de son livre Impressions et lignes claires, coécrit avec le député européen Gilles Boyer. Par conséquent, le maire du Havre va désormais s'autoriser, nous dit-on, à commenter la vie politique française, ce qu'il s'était refusé de faire jusque-là, et notamment quand on lui pose la question à la radio et qu'on lui dit « Tiens, 2022, qu'en pensez-vous ? Avez-vous des ambitions ?» Il répond ceci.
2022, ça va être une année importante, notamment... Pas seulement, mais notamment parce que ce sera le 150e anniversaire du HAC. Je vais botter en touche, ça se fait pas au foot, c'est plutôt au rugby qu'on fait ça. Mais ce que je vous propose, puisque c'est une question sérieuse, c'est qu'un jour vous venez au Havre, on prendra le temps de discuter notamment de ça, et puis on boira une bière et on en parlera.
Voilà, il parle football, alors qu'évidemment 2022 c'est l'élection présidentielle. Comment faut-il interpréter ce retour, Olivier Perroux, sur le devant de la scène d'Edouard Philippe ?
Il y a deux interprétations possibles. Il y a ceux chez Emmanuel Macron, qui notamment chez les historiques d'Emmanuel Macron, qui craignent un retour, une trahison d'Edouard Philippe. Ce sont les mêmes qui, pendant que Edouard Philippe était à Matignon, s'épanchaient dans la presse pour critiquer l'action du Premier ministre. Puis il y a une autre version, qui est celle d'une promotion d'un livre. Voilà, il sort un livre, il fait parler de lui. Évidemment, il va y avoir beaucoup de messages, plus que des cartes postales dans ce livre. Et on sait, Edouard Philippe l'a déjà dit à plusieurs reprises, on sait qu'il a une ambition présidentielle. Son ambition à l'heure actuelle, je doute que ce soit de revenir à Matignon en 2022. Oui. Il le dit dans la coulisse aussi qu'il va soutenir le président, mais il ne mourra pas pour lui. Quelque part, il monétise son soutien, en fait. Voilà, je veux soutenir le président de la République, mais c'est moi qui poserai les conditions.
Est-ce que vous pensez qu'il va revenir activement dans la vie politique comme acteur et pourquoi pas comme alternative en 2022, Charles Villeneuve ?
En tout cas, dans le livre, il y a une anecdote qui est très intéressante, que tu connais certainement. Je vais la lire. « Quand Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt en 1066, un homme profite de la crise de succession pour s'emparer de la couronne, le Normand Guillaume le Conquérant. Et ce petit rappel historique figure donc dans le livre. Alors, est-ce qu'il va être, si vous voulez, simplement l'homme de la confession à travers ce livre, ou le début de sa conquête ? En tout cas, il y en a pas mal qui espèrent.
Oui.
Il a rencontré, on le sait, très longuement, le 23 septembre dernier, Xavier Bertrand.
Donc là, ensuite... vous faites une réponse de Normand, puisque le Havre, c'est en Normandie.
Mais absolument,
faites...
d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai cité, justement, Guillaume le Conquérant.
Guylaine Ottenheimer, faut-il y voir le début du retour de l'ex-premier ministre chouchou des Français ? Parce que c'est vrai que quand on regarde les intentions d'opinion favorable, 54% des Français ont une bonne image de lui, selon Elab, et l'ancien premier ministre est la seule personnalité politique qui recueille plus de 50% d'opinion favorable.
Alors d'abord, une petite réflexion. Je trouve bizarre quand même qu'un premier ministre écrive un livre avec un de ses collaborateurs que personne ne connaît.
Oui.
Bon, c'est un maintenant député européen.
L'un de ses meilleurs amis.
C'est pas le premier livre. Mais son meilleur ami, mais enfin quand même.
Il a déjà écrit.
Ils ont déjà écrit des livres.
Oui, avant, mais. Un ancien Premier ministre qui se penche sur son expérience de Matignon, qui écrit avec quelqu'un d'autre, ça m'a mis la puce à l'oreille.
Il était l'un de ses plus proches collaborateurs
alors,
à Matignon.
Et alors, vous imaginez Pompidou écrire avec son meilleur ami qui était député européen ?
Vous avez la dendue,
hein. Oui, non, mais je trouve ça me choque un peu.
Oui.
Donc je me suis renseignée.
Ah, beaucoup.
Ah, ça ben voilà, beaucoup. J'ai compris. Ça permet, s'il y a des passages un petit peu trop incisifs dans le livre, à l'égard de Macron, de dire « Ah ben, on l'a écrit à deux, ça, c'est pas ma partie. » Là, je t'en dis beaucoup sur le personnage. Bon. Deuxièmement, tous les ex ont rêvé de Matignon, à trois ou quatre exceptions près, qui sont Raffarin, Hérault et Mesmer.
De l'Élysée, vous voulez dire.
De l'Élysée, pardon, j'ai dit de
Matignon.
De l'Élysée.
Matignon,
tous,
ça, il a déjà fait.
Tous, ils ont rêvé de l'Élysée. Tous, ils ont eu la tentation, ils ont tous fait des cartes postales, des livres, des petits signaux. Donc, il est dans cette démarche. C'est normal. Vous avez touché de près au pouvoir suprême. Quand vous êtes engagé dans la vie politique, c'est difficile d'arrêter parce que vous adorez ça, parce que c'est une vibration extraordinaire. Puis, et tout simplement, ils pensent qu'ils servent leur pays. Donc tous font ça. Donc ça, c'est dans la lignée. Maintenant, son destin, ce n'est pas lui qui va l'écrire. Il ne faut pas qu'il force le destin. Il faut simplement qu'il se mette en position de réceptionner l'opportunité.
Oui.
Et c'est quoi l'opportunité ? C'est que Emmanuel Macron ne soit pas en situation. Donc ce livre consiste, comme tout ce qu'il a fait avant, à démontrer qu'il est différent de Macron, alors qu'il est la créature de Macron, qu'il a bossé avec lui, montrer tout ce qu'il est différencié. Alors, il est local, il est sympa, il est sportif, il est sincère, il est proche des gens.
Bien.
Voilà, contrairement à Emmanuel Macron.
En un mot, Olivier Perrou et Charles Villeneuve, en un mot, une trahison d'Édouard Philippe, parce que c'est quand même ça au bout du bout, hein, si jamais il veut se lancer, c'est possible ?
Moi, je dirais plutôt une inspiration de ce qu'a fait Emmanuel Macron avec François Hollande.
Bien, Charles Villeneuve.
Moi, je me demande, je me pose la question s'il a la force d'un tueur.
La force d'un tueur.
Voilà, c'est la seule question, le point d'interrogation. Mais je trouve quand même, j'ai passé toute une soirée avec lui à Fréjus, à Bazeille, à la fête de la... Vous savez que c'est un artilleur de marine, donc un bigorre, comme on dit. Et je l'ai entendu toute la nuit, jusqu'à 2-3 heures du matin, chanter absolument tous les chants, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a qui ne sont pas piqués des verres, comme on dit, je n'irai pas plus loin. Et vraiment, avec un boc de bière qu'il renouvelait assez souvent.
Bon, on va s'arrêter là alors, parce que vous allez en dire trop après. Merci Charles Villeneuve, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi.
Europe 1. Julien Buchy.
18h56 dans un instant, restez avec nous, le journal et puis le Club des idées, grand entretien ce soir avec l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui publie ses mémoires. À tout de suite.